BFM Bourse, on refait la séance.
Grâce ce soir à nos deux experts, Mathias Desmarais, bonsoir Mathias.
Bonsoir.
Responsable de l'activité action Dodo BHF. Hervé Laurent aussi nous accompagne. Bonsoir Hervé.
Bonsoir Guillaume.
Gérant petites et moyennes capitalisations pour Groupama Asset Management. On a une question d'auditeurs, mais auditeurs avec un S. Ils sont nombreux à nous poser cette question. Les marchés sont sur des records. On a touché un nouveau record ce matin sur le CAC. Est-ce vraiment le meilleur timing pour investir en bourse alors que les indices sont au plus haut ?
Mathias. Écoutez, nous, on reste assez constructifs malgré ce très bon premier trimestre. On s'aperçoit finalement que les résultats des sociétés n'ont pas déçu, en tout cas, par rapport aux craintes qu'on avait sur l'environnement économique. On voit que tous les PMI et les indices économiques des deux parts de l'Atlantique sont plutôt en nette amélioration, ce qui veut dire que finalement, l'activité économique semble tenir bon. On a des perspectives de baisse des taux, donc nous, on pense que la tendance pourrait se poursuivre à minima pendant le deuxième trimestre.
Même point de vue, vous le sentez bien, le marché, là, même si on est sur des plus hauts, il n'est pas trop tard pour investir?
Alors, par définition, quand on part d'un plus haut et qu'on monte, on est encore sur un plus haut, et donc c'est une question qui risque d'arriver assez souvent. De manière générale, les marchés montent en réalité 90% du temps, et ça coûte plus cher en général de ne pas être investi que d'être investi, à condition d'être sur les bonnes valeurs évidemment. Donc pour nous, effectivement, comme le disait Mathias, les sociétés se portent bien. On parle d'une récession, mais en réalité, on ne la voit pas vraiment dans les chiffres des sociétés. Donc, il n'y a pas de raison d'être particulièrement plus prudent que d'habitude.
Oui, et puis il y a l'espoir que le point bas de la croissance en Europe soit en train d'être passé, que la croissance réaccélère pour la suite. On a aussi une masse monétaire qui repart un peu à la hausse en Europe. Le chiffre a été publié tout à l'heure, ce qui est peut-être bon pour les liquidités à venir sur le marché aussi, en tout cas dans l'économie. Bon, il y a de l'espoir, il y a encore de l'espoir. Et puis les niveaux de valorisation, beaucoup d'experts nous le disent, hein, en Europe sont relativement raisonnables. On est toujours à peu près dans la moyenne, voire sous la moyenne historique de valorisation. Donc peut-être encore du potentiel. On a des valeurs qui publient, des sociétés qui publient, même si on est dans une phase un peu creuse de publication. On a Trigano notamment qui a publié hier soir. Elle s'est largement saluée. Ce titre Trigano gagne ce soir, Hervé, 10%. Oui. Et camping-car, oui, c'est une affaire du 21e siècle encore.
À Trigano, c'est réellement l'exemple d'une société qui a l'air d'être sur quelque chose qui a un marché relativement vieillissant ou ancien, mais qui en réalité arrive à consolider le marché autour d'elle, à faire croître ses parts de marché de manière très régulière, et finalement, bah, ça donne des performances qui sont dans la durée excellentes. Pour expliquer la publication d'aujourd'hui, qui était une croissance de 17% de Trigano, qui a beaucoup surpris, en fait, il faut comprendre que les deux années précédentes, ils avaient du mal à se fournir en châssis, donc sur lesquels on vient bâtir ensuite le camping-car. Et donc, leur croissance avait été limitée. Et leur carnet d'ordre avait cru de manière très forte, très importante. Et donc, aujourd'hui, les châssis retrouvent à nouveau un peu de volume, puisque les Stellantis, etc., n'ont plus ces contraintes de production. Et donc, du coup, le chiffre d'affaires de Trigano monte simplement par effet ressort.
Parce que les châssis trouvent une certaine assise, voilà. Donc effet ressort. Non, ouais. Est-ce qu'il faut continuer d'acheter Trigano ? Est-ce que vous avez envie de renforcer encore, alors que le titre a encore gagné 10%.
C'est toujours une très belle société qui continue à faire des belles acquisitions, à gagner des parts de marché de manière régulière, à avoir une marge qui est extrêmement solide et qui est beaucoup moins cyclique que ce que les gens pensent, et qui est sur un PE qui est très limité.
Il y a quand même la question du rachat de la division Mobilhome de Beneteau. On attend toujours la réponse, la décision, l'aval de l'autorité de la concurrence. C'est un enjeu important pour ce groupe, ce titre Trigano.
C'est plus un enjeu pour moi pour Beneteau que pour Trigano, parce que l'activité historique se porte très bien. Et puis surtout le carnet de commandes, le management, c'est vous très rassurant sur le carnet de commandes et sur la saturation des capacités de production, ce qui veut dire que les perspectives restent très bonnes.
Trigano qui rit, Soitec qui a publié aussi qui pleure. Alors là, Aude nous a quand même séché en nous annonçant cette baisse ce soir en clôture de Soitec, publication lourdement sanctionnée, le titre perd 20% ce soir. On est pourtant dans les équipements électroniques, a priori il y a une forte demande, mais Soitec n'en profite pas tant que ça. Qu'est-ce qui se passe là chez Soitec? Moins 20%. Est-ce qu'on est dans l'excès des marchés, dans une forme de disproportion, cette baisse de 20%, ou elle est pleinement méritée d'après vous, Mathias?
Alors, ça correspond à peu près quand même aux attentes et à la déception qu'on a eue sur le chiffre d'affaires, notamment sur la perspective d'un chiffre d'affaires à tonne sur l'exercice qui démarre aujourd'hui. C'est lié essentiellement à un produit qui est le RF-SOI, hein, qui est en fait, pour faire simple, ça permet la transmission et la réception de radiofréquences sur votre portable. Et là, il y a un gros déstockage à venir, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, sur les 6 prochains mois, ce qui veut dire qu'on va avoir une année fortement en V. Et ça, c'est vrai que c'est exactement ce qu'ils avaient annoncé il y a un an, là où personnellement, j'ai envie de voir le verre à moitié plein, c'est que finalement, le marché des smartphones se en fait se tient mieux qu'il y a un an. Et donc effectivement, sanction méritée, mais probablement un bon point d'entrée pour le coup. Sur la valeur.
Ouais, plutôt un point d'entrée, vous partagez cet avis, Hervé ?
Oui, tout à fait. En fait, d'accord, pour comprendre vraiment ce qui se passe, la chaîne de valeur dans les semi-conducteurs, quand on passe de ce que produit Soitec au smartphone final, en fait, on est sur des délais de production qui sont très très longs, avec des stocks qui se trouvent à toutes les étapes. Donc chez les fondeurs, chez les distributeurs, voilà. Et donc, on peut avoir 6 mois de stock, en fait. Et si vous passez de 6 mois de stock à 5 mois de stock, parce que chacun déstocke légèrement, en fait, vous avez un impact sur le chiffre d'affaires final qui est très important. Et en fait, la mauvaise nouvelle qu'on a là, c'est que le quatrième trimestre était pratiquement plat, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de décroissance du chiffre d'affaires de Soitec. Et là, on découvre qu'en fait, ça n'était pas une bonne nouvelle, puisque derrière, au T1, bah, finalement, il y a une mauvaise nouvelle qui arrive.
Point d'entrée.
Point d'entrée, oui. Parce que...
Ah, vous l'assumez, quoi. Oui.
Oui, parce que la technologie de Soitec est toujours là. Leur contenu dans les téléphones va continuer à progresser. Vous avez le Wi-Fi 6, vous avez la 5G qui va continuer à se diffuser. Donc, il y a une croissance embarquée qui est sous-jacente, mais cet effet des stockages fait qu'on ne la voit pas.
Bon, pourquoi pas profiter de cette baisse? En tout cas, Soitec ce soir souffre énormément. Hein. Moins 20% en clôture, compliqué. Alors, chaque jour, on vous interroge aussi, vous qui nous suivez à la radio et à la télé, sur les réseaux sociaux de BFM Bourse. Vous pouvez répondre aux questions qu'on vous pose jour après jour sur notre fil X BFM Bourse ou encore notre fil LinkedIn. Les cloches sonnent. On est à quelques jours de Pâques. C'est donc une question pascale qu'on vous a posée aujourd'hui sur nos réseaux sociaux. La question du jour nous mène aux résurrections boursières. Écoutez bien la question du jour.
Parmi les valeurs crucifiées ces temps derniers, laquelle ressuscitera? Casino, Atos, Orpea, Euroapi?
Laquelle ressuscitera parmi ces quelques valeurs crucifiées par le marché, c'est vrai, depuis le début de l'année? Euroapi, Orpea, Atos ou Casino? C'est la question du jour sur nos réseaux sociaux. Vous avez été nombreux à répondre. Avant de dévoiler les réponses de nos auditeurs et téléspectateurs, messieurs, pour vous, votre avis personnel, laquelle de ces quatre valeurs ressuscitera? Mathias.
Alors déjà, je ne suis pas un apôtre de la résurrection, donc je doute. En fait, j'avais envie de vous répondre aucune, puisque bon, bah, Casino, il y a un énorme travail de repositionnement des hyper, de Franprix, Monoprix, Cdiscount, enfin, et beaucoup d'investissements à venir. Atos, l'implication de l'État français potentiellement n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les actionnaires. Orpea, il y a un enjeu de réglementation. Euroapi, on voit qu'ils ont plein de problèmes industriels. J'ai envie de vous dire aucune. Si j'avais un petit pari à faire, je me dirais peut-être sur un aspect spéculatif sur Euroapi, parce qu'il y a peut-être des actifs à ces niveaux de valorisation. Peut-être qu'un fonds de private equity va vouloir rentrer, mais franchement, prendre avec de grosses pincettes, même avant Pâques.
Oui, même avant Pâques. Une résurrection d'Euroapi serait miraculeuse. C'est ça que vous nous dites.
Exactement. C'est Pâques, c'est pas Noël.
Bon. Cette question donc, laquelle de ces quatre valeurs sanctionnées, lourdement châtiées par le marché depuis début d'année pourrait ressusciter? Est-ce qu'il y en a une dont vous vous dites, oui, celle-ci pourrait ressusciter?
Je suis d'accord avec mon voisin. Effectivement, Euroapi, ça prendra sûrement beaucoup de temps, mais c'est effectivement celle qui semble avoir le plus de potentiel et probablement le moins de risques dans cette résurrection. Il y aura une restructuration longue qui aura lieu, mais malgré tout, ils ont des contrats, ils ont des capacités de production, et donc un jour, ils renaîtront un petit peu côté marge.
Euroapi, unanimité sur ce plateau, mais avec beaucoup de prudence, hein, on l'a compris. Vous ne pensez pas que si résurrection de la valeur en bourse il y a, ça se fera en ligne droite, loin de là. Euroapi qui, depuis le début de l'année, perd quand même combien? 53%. Alors, dans un instant, on va dévoiler le résultat de vos votes, vous qui nous suivez sur nos réseaux sociaux, notre fil X BFM Bourse, notre fil LinkedIn. D'abord, on vous propose de réécouter cette question à quelques jours de Pâques, cette question concernant de possibles résurrections boursières.
Parmi les valeurs crucifiées ces temps derniers, laquelle ressuscitera? Casino, Atos, Orpea, Euroapi?
Eh bien, vous votez pour Orpea, mesdames, messieurs. Majorité pour Orpea, à 44%, vous estimez qu'Orpea pourrait ressusciter en bourse devant Atos à 25%. Euroapi n'arrive qu'en troisième position. 16% et seulement 15% pour Casino. On a un auditeur sur les réseaux sociaux aussi qui nous a reproché de ne pas proposer Worldline. Parmi les autres valeurs crucifiées par le marché depuis le début de l'année, Worldline, effectivement. Là, il y aurait eu, sur Worldline, vous pensez qu'il y a un potentiel de résurrection plus élevé ou pas, messieurs? Toujours pas, non?
Ce sera pas en ligne droite, on va dire, ça c'est clair également. Mais peut-être que l'arrivée de Créa-École pourrait peut-être éventuellement accélérer les choses, mais ça va prendre aussi beaucoup, beaucoup de temps, je pense.
Voilà, c'est dit. C'est la question Pascal du jour sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à chaque fois à nous laisser vos arguments aussi en commentaire. On rebondit régulièrement dessus dans l'émission. On vous rappelle la clôture ce soir sur le marché. Alors, pas de miracle. On ne termine pas sur un nouveau record, mais on a touché quand même en séance ce nouveau record. On a battu un nouveau record. C'était ce matin. Il était 11h09. On l'a vécu en direct sur BFM Business à 11h09. Le CAC 40 a pour la première fois dépassé les 8250 points à 8253. Là, en clôture, on termine à 8205. C'est quand même une légère hausse de 0,01% pour notre CAC 40. Beaucoup d'autres questions à vous poser, messieurs. Tiens, Vusion Group, est-ce qu'il y en a un que ça inspire? Vusion Group, c'est l'ex-SES Imagota qui a publié ses résultats et surtout qui nous annonce un versement de dividendes pour la première fois en 10 ans. Est-ce qu'il faut continuer d'acheter ce titre qui a gagné ce soir 11%? Qui se jette à l'eau?
Allons-y. Vusion Group est effectivement une très belle publication. On connaissait déjà le chiffre d'affaires, il avait été préannoncé. Ce qui a fait la très, très grande surprise, c'est la marge qui est passée de 5,1% à 8,2%. Concrètement, ça correspond en fait à un doublement du résultat opérationnel de la société en un an. Donc c'est vraiment une très forte progression. Et la marge sur le chiffre d'affaires additionnel qu'ils ont fait depuis l'année dernière est de 19%. Donc un niveau très élevé. En fait, la nouveauté de cette publication, c'est réellement de démontrer l'effet de levier opérationnel qu'il y a sur la société et le fait que leurs ambitions en termes de marge à l'avenir sont tout à fait, on va pas dire raisonnables, mais sont réellement fondées. En fait, donc on a une preuve vraiment tangible de la transformation du business et qui est due au fait qu'ils ont des volumes qui sont devenus beaucoup plus importants et que leur principal concurrent est maintenant un petit peu dans les choux.
Donc vous pensez que ce titre a encore du potentiel?
Oui, ils ont gagné le contrat Walmart au printemps et maintenant ça va dérouler.
Alors le dividende, il est symbolique, hein, 30 centimes, mais voilà, quand une entreprise se jette à l'eau sur le dividende, propose un dividende, c'est pas pour décevoir l'année suivante. On imagine que c'est un signe de confiance dans l'avenir.
C'est une société qui génère beaucoup de cash déjà depuis des années.
La valeur du trimestre, c'est Ruby. Ruby a gagné 50% sur le premier trimestre et ça a encore accéléré cette semaine avec la montée au capital de Vincent Bolloré. Il faut continuer sur Ruby ou pas?
Bah, nous, on reste positif, tout à fait. On joue il va y avoir de la spéculation, des choses qui vont se passer. Vous savez, Ruby, c'est un distributeur de produits pétroliers. Donc les résultats étaient plutôt bons. On a l'arrivée de Vincent Bolloré. On a aussi l'arrivée d'une autre famille, la famille Molis, compagnie nationale de navigation, à hauteur de 5%. Donc, moi, j'aurais tendance à vouloir suivre ces deux investisseurs, sur le titre, sachant que la valorisation est très très peu chère. On a un très bon rendement supérieur à 6%. Donc là aussi, peut-être un caractère spéculatif avec des fondamentaux qui s'améliorent au vu des résultats.
Pourquoi pas? Donc sur Ruby, opinion favorable sur cette valeur. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés. Alors on rappelle aussi parmi les valeurs qui souffrent énormément en bourse depuis le début de l'année, Casino a encore reculé ce soir de plus de 60%. Décidément, la restructuration financière entraîne une dilution largement sanctionnée par le marché. C'est compliqué là pour les actionnaires de Casino, pour les actionnaires d'Atos. Depuis le début de l'année, c'est Casino qui signe la plus forte baisse du SBF 120, pire qu'Atos. Mais voilà, un message quand même aux actionnaires de ces deux valeurs qui souffrent énormément, comme ceux d'EuroAPI bien sûr, comme ceux d'Orpea, comme ceux de Worldline, comme ceux de Téléperformance. Voilà, il faut quand même envoyer un message de solidarité vis-à-vis de ces actionnaires qui souffrent beaucoup. Merci de nous avoir accompagnés, Mathias Desmarais, Odo BHF. Merci Hervé Laurent,
merci pour Guillaume.
Groupama Asset Management et le